Bonjour, je vais vous parler de formation, c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant. Mon objectif, à travers cette balise pédagogique, je vais vous décrire ce que c'est, pour qu'on mette une feuille aussi qui est des cartes de l'objet. Donc notre objectif, c'est d'informer, c'est de former des responsables, des utilisateurs, c'est-à-dire souvent des non-informaticiens, au risque informatique, à la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est un objectif qui est assez difficile à atteindre, parce qu'il faut, par exemple, ce que je ne vais pas faire devant vous, éviter tout jargon informatique. On a eu pas mal de présentations qui sont plus intéressantes les unes que les autres, mais vous imaginez que devant un public de décideurs, c'est très difficile de passer un message à travers ce jargon-là. Donc nous avons fait un choix très simple, un choix pédagogique, c'est de montrer. C'est un peu Saint Thomas, il faut voir pour croire. Donc on est parti de ce principe-là. Alors bien sûr, nous avons une offre de formation que vous pouvez aller chercher sur notre site, où nous essayons de développer toutes ces choses-là. En particulier, dans cette offre de formation, nous essayons d'apporter des solutions, des ébauches de solutions, parce que le but du problème est difficile. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est une balise avec des choses dont on a déjà parlé, des choses qui sont assez simples, assez évidentes. Moi, ce que je vous invite à faire, après cette présentation, on en discutera un peu, c'est quand vous avez vous-même à faire la formation, n'hésitez pas à utiliser les idées que je vous présente là. C'est des idées. Chacun adapte ça à sa propre sauce, à sa propre connaissance, à ses propres objectifs. Moi, je vous donne des petits trucs qu'on a expérimentés. Alors, on les a expérimentés un peu partout. On les a expérimentés devant les cabinets ministériels. C'est un exercice difficile parce qu'on vous laisse une demi-heure, pas une minute de plus pour faire tout ça. On l'a expérimenté même à l'extérieur de la France, dans des instances européennes. On l'a expérimenté, devant des gens du privé, des gens de l'industrie, des gens des PME, des patrons de PME. On l'a beaucoup fait voyager, cette valise, déjà. Alors c'est une valise qui a déjà 4 ans. La première valise était sous NT4, on l'a portée sous NT5. On a fait très peu de développement autour de ça. Donc c'est quelque chose qui se réalise très vite. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Par contre, là où il faut passer du temps, c'est les explications qu'on met autour. Alors quand j'ai beaucoup de chance, je dispose parfois de 3 heures de présentation, donc je me permets d'habiller cette valise avec 2 heures de discours sur la SSI. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici, vous êtes tous au courant des choses. Donc je vais organiser cette valise en trois périodes, une période bureautique. Donc là on va s'acharner sur ce pauvre Word, qui est un programme tout à fait étonnant. Étonnant, tout ce que vous pouvez. Je me suis enchaîné. Vous avez tous des expériences sur parler sur ce logiciel-là. Dans une deuxième période, on va parler de messagerie, du risque lié à l'usage de l'email, qui est quelque chose qui est maintenant utilisé partout. Les ministres utilisent l'email, enfin tout le monde utilise l'email, les patrons utilisent l'email. Et puis après, on va partir un petit peu sur la navigation web. Donc je commence par la première partie qui est Word. Donc on a déjà vu des démonstrations qui étaient très parlantes hier. Je vous montre les nôtres, qui ne sont pas très complexes à réaliser, c'est tout simple. Donc on part souvent d'un premier document, qui est un document, une proposition commerciale d'équipement informatique. Alors tout ce que je vous montre là, vous en trouverez des détails techniques dans le dernier magazine MISC. Il y a un article de M. Fidol qui est parfait là-dessus. Vous trouverez d'ailleurs les références, vous pourrez récupérer ce type de document. Donc il n'y a rien de neuf là-dedans. Simplement, ça fait 3 ans qu'on montre ça. Donc il y a un article qui en parle très bien. Je voudrais d'ailleurs aussi féliciter tous les gens qui concourent à ces articles, à ces journalistes. C'est très important. C'est enfin la SSI qui sort un peu de son cercle de spécialistes, qui sort de l'ombre. Donc ça, c'est très important. Donc je prends ce document-là, je vais simplement le modifier et équiper, par exemple, comme j'appartiens à un service du Premier ministre, je vais équiper le Premier ministre. Donc là, c'est très simple. Ministre. Je vais bien sûr gonfler mes prix parce que le Premier ministre a plus d'argent qu'à laisser ici. Donc je sauve le document et je l'envoie au Premier ministre. Le Premier ministre qui a eu un petit peu de formation sur ces sujets-là va ouvrir ce document avec un logiciel, là on va utiliser Notepad, Bloc-Notes. Dans l'article de MISC, ils utilisent UltraEdit, qui est quelque chose de plus sophistiqué. Mais faites ça, utilisez ce qui, ça c'est gratuit, c'est sur toutes les machines. Donc quand on utilise ce type de logiciel pour voir un peu ce qu'il y a dans le document, bien sûr on y découvre le formatage de Word, qui est très complexe, on en a beaucoup parlé, mais on y trouve surtout les versions précédentes du document. Donc ça, n'hésitez pas à le montrer. On le trouve plusieurs fois, c'est un document qui a beaucoup servi. Si vous cherchez la vraie vérité là-dedans, c'est tout au fond, on a du mal à trouver d'ailleurs, ça doit être dans le paquet quelque part. Voilà, le Premier ministre est là. Et donc ça c'est tout à fait parlant, donc vous savez qu'un document Word, quand qu'il est mal, je crois qu'on configure assez mal le logiciel, hein, c'est ça se situe ici, dans les options, il y a une option d'enregistrement rapide qui est tout à fait catastrophique parce qu'elle rajoute à chaque fois des incréments. Donc ça c'est une première chose très simple qui fait beaucoup réagir. Hein. Je vous ai mis l'objectif sur la fiche. L'objectif c'est de montrer que ce qu'on voit à l'écran n'est pas l'information numérique qui est sur la machine. Hein. Donc c'est toute la prise de conscience de ce que c'est une information numérique. Je me rends compte, on fait beaucoup de formations, que les gens n'ont pas vraiment compris ce que c'est le numérique. En particulier, je leur explique toujours que le numérique permet le clonage parfait. C'est le seul domaine aujourd'hui scientifique où on sait faire des clones parfaits. Et c'est d'ailleurs tout le problème d'Hollywood, hein, ces clones, protéger l'information musicale, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc là, c'est bien montré, l'objectif, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est pas ce qu'il y a sur la machine. Alors il y a des choses encore plus simples. La chose est très simple, c'est vous afficher les modifications d'un document, voilà, et on peut faire apparaître ça. Donc il faut expliquer aux gens comment faire pour que les modifications qu'ils ont mises dans le document ne soient pas dans le document final. C'est pas si simple que ça. Hein. Moi je connais une méthode assez empirique, de copier le document final et de le remettre dans un document neuf. Bon, il y a peut-être des choses, je sais que dans les derniers Word, on peut le faire, mais on n'a jamais le temps d'aller voir. Enfin, bon, vous savez que sur Word, on utilise 1% des fonctionnalités. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on ne connaît pas, les gens ne sont pas formés ou sont mal formés à cet outil-là. Je crois qu'il y a à peu près 200 modules de formation en ligne sur Word ou 300, c'est à peu près le seul marché de la formation en ligne qui existe. Mais ces formations-là, pour en avoir regardé certaines, les abordent jamais ces problèmes-là. Donc on est vraiment dans un monde de non-formation. Alors cet exemple-là qu'on a fabriqué, il existe en vrai, et vous trouvez ça aussi dans l'article de Fugol, et c'est l'exemple d'Alcatel. Donc, vous connaissez peut-être cette histoire-là qui est assez intéressante. C'est l'histoire de la trappe dans les modems ADSL d'Alcatel. C'est arrivé en 2001 et ça fait la une de Libération. Hein, de temps en temps, la SSI fait la une des journaux. Ce n'est pas souvent le cas, mais c'était le cas. Je crois que l'actualité est assez. Il n'y a pas beaucoup d'actualité à l'époque. Alors, l'histoire est intéressante parce que c'est une sorte d'attaque, j'allais dire, d'intelligence économique. Donc, on peut l'analyser sous cet angle-là. Ça a été fait par un. J'ai vu récemment que. Qu'un universitaire a écrit un livre sur l'intelligence économique où il citait l'exemple d'Alcatel. Je crois que c'était le moment où Alcatel essayait d'acheter des Bell Labs, Lucent, qui est un grand fournisseur de la NSA. On peut faire un petit lien avec cette histoire-là ou pas. Moi, j'avais encore un appelé scientifique à l'époque qui a refait le travail qui avait été fait par l'Américain qui avait décortiqué le modem ADSL. Il m'a fourni un rapport technique complet. Au bout de 3 mois, il avait fait ce travail-là. Il a découvert d'ailleurs d'autres trappes d'or, hein, dans le produit. Il y avait Maxell là. Celle-là, elle a fait l'objet d'une publication sur Internet. Alors, à ce moment-là, Alcatel s'est cru obligé de faire de la communication crise, donc a mis sur son site ce document Word, qui est maintenant un document fameux, puisque quand vous faites ces petites choses-là, donc je vous invite à le récupérer, vous avez l'adresse dans le disque. Donc vous faites simplement la chose suivante, voilà. Et puis vous voyez apparaître ce que pense vraiment Alcatel. Il y a ici une phrase qui est tout à fait merveilleuse, qui est « Est-ce qu'on est vraiment sûr en interne de ce qu'on raconte à l'extérieur ?» catastrophique en termes de communication. Hein, donc vous avez aussi ce qui est intéressant, vous avez même l'heure, hein, ça a été fait à 18h28. Donc on voit il faut absolument sortir le document très vite, etc. Donc on fait des bêtises. Donc ça c'est un cas d'école, mais je vous invite ce cas d'école à le montrer. Enfin, ça ne coûte rien de montrer ce cas d'école. Voilà pour cette chose-là. Donc ça c'est le cas Alcatel, qui est intéressant lui-même en termes d'analyse technique et économique. Et puis j'en ai un dernier pour la route qui n'a pas encore été montré, qui est quelque chose qui a été prouvé par Florent Chabot, qui dirige notre équipe de recherche en sécurité informatique. Alors je vous le montre, hein, c'est très simple. Tout est expliqué dans le texte. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais leur donner le fichier ou vous demanderez à Florent Chabot. Je ne sais pas s'il l'a mis sur Internet, je ne pense pas. Mais je vous montre la chose, le résultat. Vous avez ici, ça utilise des codes champs. Hein, c'est un document RTF, donc normalement dans le format le plus portable, le plus simple. Il n'est pas si simple que ça. Je crois qu'il était classé hier par le CELAR dans la catégorie des choses pas tellement à risque. Bon, on pourrait peut-être remonter un peu le classement. Donc je vous montre le résultat. Word affiche ici 10 000 et 1000. Je ferme le document, je pourrais le hacher pour montrer que je n'ai pas touché. Je l'ouvre avec WordPad, qui est la version gratuite de Word, telle qu'est sur toutes les machines. Là, je l'ouvre avec Word du pack Office. C'est Word du pack Office qui fait des bêtises, hein, c'est pas WordPad. Donc je l'ouvre avec WordPad, le même document, je l'ouvre au même endroit. Et au même endroit, je dois apparaître 10 000 et 10 000. Bon, alors on peut faire des choses plus complexes que ça. Ça veut dire que Microsoft met sur le marché 2 produits qui ne savent pas interpréter le format RTF de la même façon. Donc c'est pas remarqué. Alors, on est dans un cas qui a été signalé à Microsoft, qui n'en peut mais, donc qui a mis sur son site à répondre, et vous pouvez trouver ça sur le site de Microsoft, une fiche de vulnérabilité pour dire que Word n'affiche pas bien ses taux de champ ou fait une interprétation à lui. Il y a aussi une fiche que vous pourrez trouver sur le site du CERTA, qui a été rédigée en français sur ce sujet-là. La conclusion est assez dramatique. On aimerait bien utiliser la signature numérique. Je vous montrais ça tout à l'heure. Il faut montrer ce que c'est la signature numérique. Bon, j'en parle un peu de la signature numérique parce que beaucoup de gens ne voient pas ce que c'est. Donc on a envie de signer, les notaires ont envie de faire signer à leurs clients des documents qui sont des documents Word, des contrats, des choses comme ça. On vend une maison, c'est souvent aujourd'hui un document fait en Word. Donc on aimerait bien vous faire signer ce document-là. Malheureusement, on ne dispose pas dans ce monde-là d'un afficheur de confiance. Donc on va signer, c'est ça que j'essaie de faire passer pédagogiquement. En fait, on signe l'information numérique qui est sur la machine, on ne signe pas ce qu'on voit à l'écran. C'est très gênant. Donc on ne sait toujours pas ce qu'on va signer aujourd'hui. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut signer que des documents sous format texte. Donc on ne va peut-être pas avoir le plan de la maison, etc. C'est un peu gênant. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut signer que les documents qui sont dans la classe la moins risquée là, que vous avez montré de Célar, c'est-à-dire des images, des bitmaps, des choses comme ça. Bon, c'est quand même très gênant de ne pas avoir un format de confiance. On ne l'a pas dans ce monde-là. Donc ça, c'est simplement pour montrer.
Oui, le PDF.
Alors le PDF, pareil, il est dans les zones à risque, hein, puisqu'on peut, on peut vous cacher des choses dedans. En fait, tous ces formats-là, on peut cacher des choses, des codes qui peuvent réagir en fonction. Par exemple, ici, les codes champs peuvent réagir en fonction de l'heure qui est sur la machine. C'est dans le document-là. Ce document-là s'affiche différemment en fonction de l'heure du jour. C'est quand même très gênant quand on signe un contrat. Hein, vous imaginez une somme qui change en fonction du cours de la bourse ou je ne sais pas quoi. On sait ce qu'on peut faire. Hein, je vous invite à regarder ça. C'est des codes cachés qu'on met dans un document. Amusez-vous avec ça. Demandez à Florent Chabot. Il a trouvé ça il y a 3 ans, je crois. Et puis depuis il n'a pas continué de chercher là-dedans. Parce qu'on arrive à un obstacle qui est on n'a pas d'afficheur de confiance. Donc vous voyez, on est déjà dans un problème de SSI. Ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va signer? Hein, on a la signature numérique, on a tous ces beaux algorithmes, mais qu'est-ce qu'on va signer? C'est un vrai problème. Donc c'était pour vous montrer ce petit exemple-là. Alors j'en ai un dernier, puis on passe à la rubrique messagerie. Ça aussi, c'est un petit exercice que vous pouvez faire vous-même. Alors je vous montre le résultat, je passe les détails. C'est aussi dans l'article de Nice, c'est expliqué d'une certaine façon. Je vous donne l'adresse du site, ça s'appelle Read Notify, je pense qu'il est toujours vivant. C'est un site australien. Alors il vous propose le service suivant. Il vous propose d'instrumenter un fichier Word. Donc il va simplement y cacher un petit lien sous forme d'image cachée. Et donc vous prenez ce document Word instrumenté, c'est un service qu'on vous propose gratuitement sur le site. C'est pour ça que je vous invite à l'essayer. Et après, bien sûr, on vous propose un service payant si vous voulez en faire plus, si vous voulez l'utiliser d'une manière industrielle. Alors vous utilisez ce document Word, vous le mettez en pièce jointe dans un message, vous l'envoyez à un copain. Et à chaque fois que le copain va manipuler ce document-là, il y a une information qui va partir sur le réseau, si on utilise des paquets de DNS, des choses comme ça. Donc à mon avis, ça passe à travers des firewalls modérément configurés, hein, il faudrait faire des essais. Et à chaque fois que la personne ouvre le document, la ferme, il y a une information qui part sur un site. Et puis Read Notify vous envoie à une adresse que vous lui donnez. Là, je vais utiliser une adresse bidon que j'avais ouverte 5 minutes avant chez Outlook. Hein, vous utilisez un webmail pour faire ça, comme ça vous êtes un peu discret. Et donc vous avez l'information qui vous arrive progressivement. Donc ici, on me dit que la personne a ouvert le document. Vous avez pas mal d'informations d'ailleurs sur sa configuration, sur ce qu'il utilise. Hein. Là, je sais qu'il est sous 5.1, donc il a l'air d'avoir du XP. Hein. Ça a été fait, je crois, l'année dernière. Donc vous voyez, 5.1. Vous avez alors ici, vous avez des indications très précises sur où il se trouve. Hein. Ça utilise la localisation par l'adresse IP de la personne. Donc on sait à peu près où il est. Et vous avez les heures d'ouverture, de fermeture, donc vous voyez, il a probablement été réouvert, etc. Donc vous voyez un peu ce qu'on fait avec votre document. Alors la personne à qui je l'ai envoyé m'a dit, je vais faire ça avec mon inspecteur des impôts, là, on ferme la parenthèse, vous pouvez être rigolo de faire ça. Alors ça, ça n'a pas l'air d'être interdit, ce genre de choses, donc bon, moi je vous invite à sensibiliser ou à former vos responsables à ce genre de choses. Donc c'est simplement de l'information, c'est un canal caché, là, qui est dans le... qui fuit à travers un document Word. Donc c'est très facile à faire. Voilà, je finis là-dessus. Donc on va passer à la... Donc c'était la première étape, faire comprendre aux gens que même de la bureaucratie, il faut se poser des questions, faire fuir de l'information sans vouloir. Hein, le PDF, on en parlait, je pense qu'il est quand même préférable de publier du PDF sur un site web que de publier du Word. Bon, mais on trouve encore beaucoup de Word, en particulier, on trouve des Word sur les sites gouvernementaux. C'est tout là. Alors, je passe à la suite, donc en messagerie, alors on va commencer. Alors, j'utilise les deux clients les plus connus. Hein. Quand on fait de la pédagogie, vous utilisez tout ce qui est plus connu, hein. Ça ne sert à rien d'aller dans les choses exotiques. Donc, je vais commencer par Outlook. Donc, voilà, Outlook. Et puis, je vais vous expliquer un peu quelle est la valise. Alors, la valise, c'est deux machines. Hein. Donc, vous avez une machine qui est la machine du client, fond bleu. Et vous avez ici la machine, ça c'est un serveur 2000, hein, qui est connecté. Alors, on ne fait pas encore du sans-fil, c'est un peu dangereux, surtout dans ce type de configuration, parce qu'on se fait tout de suite attaquer par tout le monde dans la salle. Mais peut-être que l'année prochaine, la valise sera en sans-fil, hein, on va faire d'autres démonstrations. Donc, pour le moment, j'utilise un câble croisé, c'est l'Internet du pauvre, hein, c'est ce qu'on peut faire plus simple entre les deux machines. Il est aussi très intéressant, en termes de pédagogie, d'expliquer aux gens que quand ils accèdent à un document sur un serveur, toute l'information passe là-dedans. Et que quelqu'un qui est en écoute là-dedans, le SNIF, pour nous, c'est évident, le SNIF, mais pour beaucoup de gens, le SNIF n'est pas une menace réelle, ils n'arrivent pas à la considérer. Donc vous leur dites qu'un document, si par exemple cette machine va chercher un document Word sur cette machine, quand ça passe dans ce tuyau-là, on peut parfaitement reconstituer le document. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose à expliquer. Donc la machine, j'ai mis un fond rouge pour montrer que c'est une machine un peu plus agressive. Donc on va commencer par le fond bleu. Alors pour la messagerie, le message est très simple. Le message pédagogique, c'est si vous ne faites rien, vous n'avez aucune sécurité, vous êtes dans un monde totalement ouvert. Après, la deuxième étape, c'est de leur montrer que la messagerie sécurisée existe. Là, je vais utiliser celle qui est en standard, offerte en standard par Microsoft. Les problèmes de confiance, c'est autre chose. Hein. Mais c'est simplement pour montrer comment ça marche. Donc j'ai un petit outil qui a été fait chez nous, mais qui est très facile à faire. Hein. C'est toujours de développement rapide. Qui permet de faire du faux mail. Alors, j'en ai préparé un pour vous. Donc, le faux mail, là, je le fais entre ces deux machines-là, mais c'est une démonstration qu'on peut faire en vrai. Alors, en vrai, dans certains cercles, je demande à la fin de cette présentation la carte de visite des gens qui le souhaitent, et je leur dis, demain, je vais vous envoyer un faux mail. Alors, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour des gens très haut placés, je me rappelle avoir envoyé un faux mail à l'Élysée le lendemain. J'ai envoyé, bien sûr, un quart d'heure après, le démenti, et la personne avait déjà transmis l'information que je lui avais donnée à son service de presse. Parce que j'avais bien sûr maquillé ça sous une forme la plus véridique possible. Donc vous voyez que même prévenu, mais c'est réel, hein, c'est réel. Puisqu'il m'a appelé tout de suite après le démenti en me disant « mais j'ai déjà envoyé ça au service de presse ». Je l'invitais en fait à une émission privée à TF1, donc il avait transmis ça. Alors il faut, vous voyez, la stratégie sociale, c'est très important. Donc j'en ai préparé un qui s'appelle... Voilà, c'est celui-là, vous voyez. Donc voilà le faux mail. Donc c'est un petit outil pour faire des faux mails. Je l'envoie. D'accord, je l'envoie. Il part. Et donc je reçois mon faux mail. Alors si vous regardez bien comment ça a été fait, je me suis même fait, j'ai même mis dans l'entête du message le nom de la machine qui gère les messages de l'Élysée, c'est la machine Berlioz. Hein, donc il faut aller assez loin. Donc la seule solution pour se rendre compte qu'on s'est fait avoir par un faux mail, c'est qu'il n'y a pas ici la machine Berlioz-Élysée.fr. Si vous cherchez son adresse IP, c'est pas facile à chercher. C'est pas celle qui apparaît ici. Donc c'est le seul endroit, quand on reçoit un message, pour détecter le faux message. Hein, c'est qu'il n'y a pas correspondance entre ces deux choses-là. Ah, donc vous voyez, le faux mail, c'est quand même un exercice qui est assez facile à faire. Je sais que les entreprises l'ont fait. Vous invitez les gens à un cocktail devant le bureau du PDG, etc. Vous avez plein de monde à midi, etc. C'est des choses qui peuvent se faire en vrai pour simplement montrer aux gens qu'on peut se faire facilement avoir. Alors voilà, donc ça c'est le faux mail. Après, la deuxième opération, on va aller dans des choses un peu plus sophistiquées, c'est de montrer qu'on peut... bon, c'est une variante du virus I love you. On en a beaucoup parlé, donc je vous le montre. Donc là, il faut que je navigue un peu entre les deux machines. Hein, d'habitude, on est... Bon, c'est là. La grosse difficulté, c'est d'avoir deux écrans. Hein. Les enfants ne sont pas tellement préparés à ça. Donc ici, simplement, pour le view, j'ouvre voilà. Je l'envoie. Donc je l'envoie. Et j'ouvre ici. Voilà, j'ouvre ici le client de l'autre côté. Donc là, on va simplement faire un petit jeu de ping-pong. Donc vous savez que I love you, c'était... Bon, c'est une piège. Donc là, on est dans le... C'est l'utilisateur qui va faire propager le verre. Hein, c'est un verre informatique. Donc c'est l'utilisateur, c'est le geste de l'utilisateur. C'est pour dire, attention, tous vos gestes peuvent être des gestes dangereux. Donc là, c'est très simple, c'est un peu vieux, il y avait une première pièce jointe, c'était l'époque de l'euro, hein. Vous voyez que la démonstration date un peu. Et la deuxième pièce jointe, c'est le fameux piège qui peut prendre toutes les extensions, pif et tout ce que vous voulez. Hein. C'est là, il ne faut pas cliquer dessus. Et donc là, vous avez simplement un jeu de ping-pong qui se met en route. Donc il se propage à travers le carnet d'adresse. Alors là, le carnet d'adresse, j'ai simplement deux personnes, Dupont et Durand. Donc c'est les deux machines que j'ai là. Donc on peut faire un petit jeu de ping-pong ici. Alors ce qui est très intéressant dans ce jeu de... Voilà, parce qu'il y a un petit jeu de ping-pong qui se met en place. Le plus intéressant, là, c'est de montrer un cas réel, c'est de montrer comment ça se propage. Donc, on va y aller. Donc, ici, j'ai une petite animation, c'est Claude Red, hein, qui est comme un verre qui a eu son heure de gloire. Ça continue d'ailleurs, toutes ces choses-là ne meurent jamais. Hein, ça réduit au-delà des choses. Donc, simplement, ça, c'était des chiffres réels de propagation de ce verre qui s'était lancé à partir de zombies. Hein, de petits programmes installés sur les machines vulnérables. On a beaucoup parlé des machines vulnérables. Les machines vulnérables, là aussi, il faut le faire passer dans la formation. Les machines vulnérables, c'est souvent les machines qu'on a chez soi, derrière son ADSL. Hein, aujourd'hui, c'est ces machines-là qui alimentent, j'allais dire, tout le fond des codes malicieux sur le net. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va être parti à minuit, et qu'à travers les carnets d'adresses, ça arrive quand même, à la fin de la journée, à atteindre 300 000, 400 000 personnes. Hein, donc ça, c'est une animation qu'on trouve sur le web. Il faut la montrer, hein, moi je la montre toujours, parce que ça montre bien... Bon, ça montre aussi la fracture numérique, cette animation-là. Hein. On voit que certains pays n'ont pas été touchés, en particulier, je vois que Madagascar, on n'a rien suivi. Bon, là, ça avait utilisé une vulnérabilité des serveurs IS de Microsoft. Voilà, ça c'est une façon de montrer. Alors on va passer, donc ça c'était le verre gentil, et je vais vous en montrer un méchant. Alors le méchant, on va se mettre sous un coup d'express, donc on va changer de pigment. Donc je vous montre le verre méchant. Alors, je vous montre le verre méchant. Alors je vais vous montrer un exploit, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc on utilise toujours notre outil de Fomail. Et là, ce qui est assez amusant dans celui-là, c'est qu'au départ, c'est du texte. Et à la fin, le résultat, c'est de tuer la machine du client. Donc vous voyez, du texte peut tuer. Donc ça, c'est intéressant de montrer ça. Donc c'est simplement un exploit. Je vous explique à peine comment ça marche. Voilà, il est là. Donc le texte, il est là. Donc tout est là-dedans. Donc bien sûr, il y a une enquête qui dit que c'est de l'HTML, donc vous voyez ce qu'on va faire. On va simplement dire au client là-bas, je suis de l'HTML, le client va lancer Internet Explorer en fond de tâche. Il y a bien sûr des vulnérabilités en buffer overflow, etc. Et on va les exploiter pour tuer la machine qui est en face. On va réussir à exécuter une machine chez le client, ce qui est quand même le but d'une attaque réussie, c'est d'arriver à exécuter du code. Donc je vous montre simplement le texte, hein. Si vous voulez le détail, le programmeur est dans la salle. Et donc, on envoie, voilà. Donc là, la différence avec Outlook, c'est qu'il faut relever son courrier. Donc je relève mon courrier. Voilà, je vous montre, ça va très vite. Donc c'est le simple clic sur le message qui va tuer la machine. Bon, donc là, la machine est morte. Bon, elle n'est pas morte en vrai parce que ma démonstration s'arrêterait là. Un peu bidon, mais on pourrait, alors le CELAR le fait, ou l'a fait déjà, le CELAR par exemple va flasher le BIOS d'une machine, et ça c'est tout à fait mortel pour un portable. Hein, ça se démontre assez difficilement. Quand le CELAR fait cette manip-là, ils le font sur un PC où on peut encore enlever le BIOS physiquement et en mettant dans la glace. Donc je ne m'amuse pas à ça, je n'ai jamais amusé à ça, mais ça c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc là, je vous explique ce que c'est cette bête-là. Alors cette bête-là, elle est. Voilà, ça a une actualité en ce moment, puisque la semaine dernière, il y a Bugbear qui a mis... Bon, c'est Bugbear, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai une première planche que j'emprunte à M. Longeon du CNRS, qui est une planche qui est tout à fait intéressante, qui montre qu'une vulnérabilité ne meurt jamais, parce qu'on a un effet de seuil à un moment donné, c'est-à-dire c'est les machines qui ne seront jamais mises à jour, jamais corrigées, jamais, etc. C'est souvent aujourd'hui les machines qui se trouvent chez les personnes, chez les gens qui utilisent cette informatique domestique. Hein, donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc, ce que je vous ai montré là, l'exploit, j'exploite la faille qui est donnée là. Donc c'est le bulletin de sécurité de Microsoft 2001-020. Et le Budbeer de la semaine dernière, celui qui a fait monter les marchands d'antivirus au niveau le plus élevé, exploite toujours cette même faille. Et 95% des attaques de l'année dernière, des attaques virales, des vers et des choses comme ça, ont exploité cette faille. Donc c'est une faille. Donc il y a beaucoup de paresse dans les gens qui font du vers médiatique. Hein, ils utilisent toujours la chose. Ils n'ont aucune raison d'aller chercher le buffer overflow, celui que Microsoft nous a inventé il y a 2 semaines, hein, puisqu'il y en a d'autres, hein, dans le monde. On utilise toujours le même. C'est celui-là qu'on a utilisé, il est là. Donc, depuis 2001, les gens ont toujours des machines dans les entreprises, un peu partout, qui n'ont pas corrigé cette chose-là. Donc, voilà, c'est ça la situation réelle. Donc, ce qu'on montre là, je ne pensais pas, en venant ici, que ça avait cette actualité-là, le Budbeer. Donc, il y en a un nouveau qui est apparu la semaine dernière. Voilà, donc, un peu cet exploit-là. Quand on a fait ça, il s'agit quand même de montrer un peu comment on peut sécuriser la messagerie. Donc là, le message, c'est de montrer ce que c'est la signature numérique. Alors, je vous montre la petite démonstration qui est très facile à faire. Donc là, on part d'Outlook Express. Voilà, on le lance, on crée un nouveau message. Voilà, je l'envoie à Marc Dupont qui est la machine là-bas. On n'a pas eu beaucoup d'imagination. Je l'appelle essai 1. Je lui mets un petit contenu. Et bien sûr, j'ai mis en place, dans cette petite architecture, une mini IGC. Donc j'ai mis en place, j'ai tiré des certificats. C'est souvent ça. Pourquoi les gens n'utilisent pas la messagerie sécurisée? C'est parce qu'ils ont mis en place des clés. Hein, et donc le problème, il est là. Le problème, il est dans le déploiement des IGC. Donc je sais qu'il y a des projets un peu partout. Hein, ça se fait très lentement. Même le CEA qui a des moyens n'est pas encore à avoir déployé complètement ces clés partout. Bon. Sur 2 postes, c'est assez facile à faire. Hein, c'est très facile. Donc je signe le document et je l'envoie. Donc signer un document, là je me suis mis dans la configuration la plus simple où je ne demande aucun élément d'authentification à la personne qui signe. Je considère que la personne a rentré son mot de passe quand elle s'est loguée sur sa machine et qu'à partir de là, elle peut tout faire. C'est le mode le plus dangereux, celui-là. Je pense que la signature ne passera dans les esprits que le jour où on demandera quand même à celui qui signe de s'authentifier un minimum. Hein, donc il y a toute une problématique de l'authentification, je pourrais vous en dire un petit mot là. En particulier, moi j'essaie de tuer un certain nombre de fausses idées qui sont par exemple l'authentification biométrique, c'est une très mauvaise idée. Hein, je pourrais vous expliquer ça pourquoi. Donc la meilleure idée pour authentifier quelqu'un qui signe, c'est quand même la carte à puce avec un élément secret dedans et un code PIN qu'on tape quelque part. Donc, voilà un peu les choses. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que ces machines-là ne soient pas fournies avec un lecteur de carte à la base. Ça, c'est une petite curiosité. Que je n'arrive pas à m'expliquer ou que je m'explique trop bien. Donc j'envoie ce message. Alors ce qu'il faut faire là pour convaincre les personnes de l'utilité de la signature, c'est d'intercepter le message. Donc je l'intercepte. Donc on va l'ouvrir. Alors la meilleure façon, il est là. Donc il est sur une machine de message. Il faut bien expliquer aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, un message ne vous arrive pas directement dans votre boîte aux lettres. Il va transiter par un certain nombre de machines. En particulier, il sera stocké sur une machine qui gère la messagerie dans l'entreprise ou dans l'organisation. Des choses aussi simples ne sont pas toujours les idées qui sont évidentes pour les gens qui utilisent la messagerie. Donc je l'ouvre simplement avec bloc-notes. Je me permets de modifier 2 choses. Je vais par exemple modifier l'émetteur. C'est aussi intéressant de montrer aux gens à quoi ressemble un message. Un message, c'est une entête et un corps. Il y a une partie qui ne pourra jamais être protégée, c'est l'entête. Puisqu'il faut bien que le message arrive à l'autre bout. Hein, donc ça, c'est quelque chose à bien expliquer aux gens, c'est qu'au moins l'entête est en clair. Par contre, ici, comme je n'ai fait que signer, je n'ai pas, on va apparaître le contenu. Donc je change le contenu en contenu. C'est pour faire passer l'idée que la signature numérique offre aussi une fonction d'intégrité qui n'existe pas dans la signature papier. Et alors, il est très intéressant quand même de montrer aux gens ce que c'est une signature numérique. Parce que là aussi, on se fait beaucoup d'idées. Une signature numérique, c'est ça. Hein, donc c'est toujours intéressant de le voir. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne montre jamais. Ça ressemble à ça. Hein, c'est une suite de... À ça. Donc là, j'enregistre tout ça et je laisse le message poursuivre sa route. Et là, il suffit simplement de relever sa boîte. C'est très simple.
Donc, je relève ma boîte. Voilà. Et puis, il est là. Et donc, quand je l'ouvre, vous voyez, j'ai le petit saut là qui me dit qu'il a été signé. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai une alerte de sécurité qui me dit que le message a été falsifié et que l'entête qui se retrouve dans la soupe qu'on a vue là a elle-même été modifiée. Donc ça, c'est quand même une première fonction de sécurité. Alors, pas peu de temps, je vais passer avant vous, je signe et je chiffre pour montrer que même le contenu est plus on a un peu plus de sous. Voilà. Donc ça, c'est, je crois que c'est important de montrer aux gens ce que c'est de la signature numérique. À un moment donné, c'est un geste qu'on accomplit sur une machine avec une authentification plus ou moins présente. Là, il n'y avait rien du tout. Il vaut mieux quand même mettre en place, mais ça, c'est des décisions. Quand on met en place une messagerie sécurisée, c'est des problèmes d'organisation qu'il faut résoudre. Quel va être le geste de celui qui signe? Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, très souvent, les patrons n'ont pas envie de faire grand-chose. Donc, on pourra peut-être se permettre de leur mettre le mode qui est là. Il suffit simplement qu'ils cliquent sur le petit bouton qui est à droite. Bon, c'est un choix. C'est un choix de politique. Mais il faut l'expliquer, il faut former les gens. Donc, voilà, ça, c'était la partie... La partie messagerie, donc je passe tout de suite parce que l'heure avance à la partie navigation. Là aussi, je vous ai mis un petit objectif qui est là, c'est simplement de dire que la navigation, j'ai mis ça, doit se faire à partir d'un poste bien configuré, on en a parlé tout à l'heure, et de préférence dédié à cet usage parce que très souvent, les choses sont mal configurées, donc il vaut mieux, je pense, pour un certain nombre de responsables, avoir deux machines qu'une seule. Mais là aussi, je prêche un peu dans le désert parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la même machine sert à écrire le discours du ministre et à faire de la navigation. C'est comme ça, c'est un constat de société. Donc, mais bon, on peut essayer de montrer ça. Alors ici, c'est très simple. C'est lui qui va faire office de serveur web. Donc on a créé un certain nombre de pages. Bon, la première est un peu anecdotique, hein, c'est un petit exercice facile. C'est ça, par exemple. Ça avait planté navigateur dans les versions précédentes. Je crois que là, ça le fait toujours un peu planter. Donc tout simplement on affiche une page blanche, une page noire. On peut aussi demander dans une école, c'est le premier exercice de programmation, d'écrire un JavaScript qui ouvre des fenêtres, qui ouvre des fenêtres, qui ouvre des fenêtres. Vous savez qu'on ouvre un certain nombre de fenêtres, tout s'écroule. Donc, mais ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. J'ai mis le déni de service derrière, c'est un peu osé. Ça n'a rien à voir avec le déni de service, qui est quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Bon, la première, c'est ça. Alors là, on s'est amusé, c'est très simple. La technique qu'on a utilisée, c'est la technique de l'Activix, puisqu'un Activix a tous les droits sur la machine. Donc c'est des Activix qu'on a écrit chez nous. La première écriture, c'était un stagiaire d'il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est des trucs qui marchent toujours. La seule différence, quand il a fallu les réinstaller sur ces machines 2000, c'est aujourd'hui, il faut les signer, les Activix. Hein, l'Activix doit être signé. Donc on va jouer là-dessus. Donc je commence par ce truc-là, surveillance à distance, voilà. Donc on a un Activix derrière la page qu'on est en train de charger. Et cet Activix, nous l'avons signé avec un certificat, un faux certificat, parce qu'on a le droit de générer des certificats, c'est aussi facile, c'est très très facile. Donc on l'a appelé ce certificat, on l'a appelé secrétariat général de la Défense nationale des CSSI. Là c'est un peu du social engineering. On lui a donné un nom qui est censé donner de la confiance. Pourquoi se priver? Alors bien sûr, le message ici est assez explicite, il nous dit de cliquer sur nom. Mais c'est très frustrant quand on va sur un site de ne pas de s'arrêter là. Donc on a toujours tendance à cliquer sur oui. À partir de ce moment-là, le cheval de Troie est en train de s'installer. Donc là, on le voit. Voilà. Et donc je vais vous montrer simplement les résultats. Donc j'ai besoin de lancer un petit outil. Alors là, on fait dans le spectaculaire, hein. On n'est pas dans le réalisme, on a le droit. Donc je vous montre les choses. Simplement, on va utiliser un SpyViewer. Alors, il faut lui rentrer l'adresse. Alors, l'adresse, j'arrive jamais à la retirer. Ça vaut le coup d'aller voir ici dans les logs. Là aussi, les logs, les traces, c'est un sujet très important. Montrer qu'on laisse des traces un peu partout. En particulier, on a la trace de celui qui est venu sur un site. C'est une question qui peut venir. Hein. C'est comment on sait que je suis allé chercher le piège? On le sait parce qu'il y a une trace sur le site qui dit que voilà l'adresse. Donc, je copie ça. Donc, je le mets là-dedans. C'est la partie là. Vous allez voir le résultat. Donc, tout simplement, voilà. Là, j'ai une recopie d'écran. Donc, on peut. Alors, je prépare la manip d'après. Alors, la manip d'après, je m'amuse. Alors, pour faire un peu spectaculaire, il faut faire un peu majax hein, dans cette histoire-là, sinon ça passe pas. Donc, bien sûr, j'ai créé un petit document là, qui fait flashy. Là. Donc, voilà. Et d'ailleurs. Il faut s'amuser un petit peu. Alors ce document-là, bien sûr, je vais le chiffrer, parce que dans la manip d'après, je vais montrer qu'une attaque force brute est souvent très efficace contre les mots de passe courts. Là aussi, le discours ne sert strictement à rien. On a beaucoup de vues. Je crois qu'il faut montrer comment on casse des mots de passe pour que les gens soient convaincus de la chose. Donc là, je vais simplement le chiffrer avec du très mauvais chiffre. Hein, donc vous ne le direz pas. Je ne dirai pas à M. Figliol, hein. J'utilise le chiffre qui est natif dans OpenZip.
Et donc je rentre un mot de passe, alors on va, je ne sais pas comment ça, on va mettre ISSPIC, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est une info 6, on va en rajouter un, donc on va mettre direct par exemple. Voilà. Ok. Il y en a 7. Voilà, c'est pas bon. Ça ne convergera pas. Il y en a 7. Là aussi, on peut expliquer que mettre à la poubelle, ça ne supprime pas, etc. Vous connaissez toute l'histoire, hein, mais les fonctions while, les fonctions d'effacement, toutes ces choses-là, ça, on peut essayer de les expliquer, c'est pas évident. Hein, donc je repars là-dedans, il faut pas se tromper. Donc password, je vais en mettre I, S, S, T, I, C. Là, il y en a 6. D'accord ? Ok, add. Et donc, bien sûr, quand on a créé un document chiffré, il faut supprimer le document clair. Alors là aussi, je vais utiliser un while. Je vous montrerai tout à l'heure très rapidement comment on peut aussi montrer la crypto. Il faut un peu la montrer hein, pour qu'on vienne par la plupart des choses. Donc, je vais vous faire un petit while. Voilà, donc je supprime ça. Voilà. Donc, j'ai besoin de fermer mon... Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer que le modèle client-serveur a été renversé. En fait, c'est lui qui est serveur de lui. C'est lui qui est devenu client. Ah, donc il y a un renversement du modèle. Un modèle marche dans tous les sens. Ah, ça me... Voilà. Donc ici, pour la suite, il suffit simplement d'ouvrir ici un petit document, voilà, un petit dossier qui s'appelle Recu. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, je l'ai pas mis à zéro. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc ce que je vais faire là, dans la manip d'après, je vais voler de l'information. Comment on vole de l'information. Donc c'est la même technique que tout à l'heure. Donc là on s'est intéressé, on a fait un petit site groupe sans ligne. Donc l'ActiveX c'est simplement le petit, c'est la présentation du 440. Donc on imagine que c'est une petite application qui va aller chercher toutes les 5 minutes le cours du 440. Donc c'est tout à fait réaliste. Et là pareil, on a signé avec un faux certificat, on lui a donné un nom qui fait très, très flashy, on l'a appelé 440 intraday temps réel. Donc je mets un peu sur le côté réaliste des choses. Donc bien sûr, c'est le fait de cliquer sur oui qui installe la chose. Alors il faut aller très vite, je ne vais jamais assez vite, pour voir que l'information a fui et qu'elle est allée de l'autre côté. Donc l'information est partie. Alors techniquement, c'est assez intéressant parce que ça utilise des choses dont on a parlé hier, des guettes, des choses très simples, c'est qu'on fait fuir l'information par le port 80. Alors ça, c'est aussi un grand phénomène. On nous a tellement vendu de firewall et de bricoles de Shamba que tout le monde se met aujourd'hui à utiliser le port 80. Il est toujours ouvert sur les firewalls. Donc peut-être que dans 2 ans, tout passera par là. Il n'y aura plus qu'un seul port actif, c'est le port 80, tout passera par là. C'est une tendance un peu lourde. Donc bien sûr, quand vous voulez de l'information, il vaut mieux la faire transiter par un port ouvert. Alors quand on vole de l'information en vrai, on fait 2 choses. D'abord, on ne fait pas ce que je viens de faire là, on la laisse en place. Donc on fait de cloner l'information, on la laisse toujours en place, il faut être discret. Et bien sûr, on va la chiffrer avant de l'envoyer. Là aussi, on a parlé hier d'une nouvelle race de backdoor ou choses comme ça. Bien sûr, il est très intéressant de chiffrer avant de... On ne l'a pas fait dans ce cas-là. Alors là, la chose, le petit supplément de cette démonstration, c'est de montrer comment on va accéder à ce document qui est chiffré. Alors là, les choses sont très simples. On lance... Bon, ça se prête bien au zip. Hein, ça ne marche pas aussi bien sur d'autres choses. Il y a un petit outil qui s'appelle Advanced Zip Password Recovery, un petit outil russe, donc ça donne un petit côté sulfureux à la chose. Mais c'est un très bel outil. Hein. Donc, c'est un outil qui fait de la brute force, donc je l'ai paramétré pour que ça aille vite. Hein. Donc je suis en train de travailler, là, voilà, et donc il va nous trouver le mot de passe. Donc vous voyez, il fait tous les... Voilà. Donc ce qui est très intéressant là, c'est de montrer la capacité de ce type d'outil. Ah, là c'est quand même un portable, j'allais dire, bon c'est un portable normal, hein, c'est pas un portable, on n'est pas dans les très grosses puissances de calcul. Bon donc il a quand même, c'est un petit programme logiciel qui teste quand même 6 millions de mots de passe à la seconde. Ah, donc ça marque assez les esprits, et donc il a trouvé notre mot de passe en 19 secondes. Donc voilà, ça c'est un petit supplément pour montrer que... Alors, je ne vous dirai pas, mais j'ai rencontré des ministères où les mots de passe étaient limités à 4 caractères. Hein, donc je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Enfin, depuis que je leur ai montré ça, ils ont pris des mesures. Ils espéraient pas. Et la dernière petite manip, c'est encore plus simple, c'est... là, on va jouer avec quelque chose. On n'a pas pris Back Orifice parce que c'est un peu trop connu. On en a pris un autre, mais tout est bon. Donc c'est simplement le fait de... Là, on ramène un jeu à la fin de la journée, on est un peu fatigué, donc on va l'enregistrer. Donc vous allez voir le petit jeu. Là. Bon, là, il faudrait qu'on change un peu, c'est un peu long, mais c'est bon. Vous voyez, là, le petit jeu est arrivé. Il est là, le petit jeu de cartes. Donc on l'extrait, là. Voilà. Vous connaissez tous ce petit jeu. Alors, il ne tourne plus très bien, il est un peu vieux. Donc c'est le fait de lancer le jeu qui a installé le cheval de Troie. Donc là, c'est un cheval de Troie, c'est un cheval de Troie et bus, donc pareil, on va pouvoir exploiter ce petit cheval de Troie. Donc vous connaissez tous ce jeu. Bon, on a utilisé celui-là parce que c'est un peu le jeu le plus, peut-être le plus utilisé dans l'administration.
Ah ben, je le vois encore de temps en temps. Alors, ici, les bus, c'est très simple, hein, vous connaissez peut-être. Donc je ne vais pas faire grand chose, hein. Je vais simplement ouvrir par exemple le lecteur de CD-ROM ou jouer une musique en face. Donc là simplement je me connecte sur le client. On peut faire une chose, alors NetBus c'est sympathique parce qu'on peut par exemple ouvrir le lecteur. Donc, voilà, on peut ouvrir la boîte là-bas. Et puis, bien sûr on peut faire plein de choses, je ne vais pas insister dessus, mais là vous vous amusez un petit peu, vous jouez de la musique sur la machine d'en face, etc. Hein, donc là c'est assez parlant. Hein. Donc voilà. Alors je vais... Puisque je suis sur cette machine et que je dis qu'il faut montrer des choses, je vais vous montrer un peu autre chose. Bon, c'est des petits éléments qu'on utilise quand on fait des cours chez nous, quand on fait de la formation. Là, c'est une chose, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce qu'on a vu hier. Le RSA, c'est souvent compliqué à comprendre. Moi, je propose aux gens, par exemple, d'utiliser des outils comme Maple pour montrer un peu le RSA dans un fonctionnement réel. Alors, je vous le montrerai rapidement, je ne vous dis pas comment. C'est simplement pour montrer que... Il est souvent plus intéressant de montrer le RSA avec des nombres en taille réelle. Hein, donc je tire un nombre qui a une chance sur deux d'avoir 512 bits, j'en tire un autre qui a une chance sur deux, donc on espère qu'il est là. Je fais N, c'est pour montrer un peu la taille de ce qu'on manipule. Et puis bien sûr, après on calcule les fameux éléments du RSA, on fait du chiffrement de M là, et puis on fait du déchiffrement et on montre que entre chiffrer et déchiffrer, on trouve la même chose. Hein, c'est assez pédagogique de montrer les nombres dans leur taille réelle. On voit souvent, souvent on montre le RSA avec 30, V égale 37, Q égale etc. Je crois qu'on peut les montrer. On fait la même chose, on a la même chose si ça vous intéresse, ça s'écrit en ligne, sur le Diffie-Hellman, qui est un autre élément de... Donc on retrouve par exemple, là c'était pour expliquer par exemple le SSL ou des choses comme ça. Voilà. Et puis je crois que j'ai à peu près fini. J'en ai un autre pour le... J'ai installé bien sûr sur cette machine un petit keylogger. Donc ça c'est un petit keylogger logiciel, donc on va retrouver tout ce que j'ai fait pour vous, on va le retrouver dans un petit fichier. Alors c'est une... j'ai un peu honte parce que c'est des choses très 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 anciennes. On faisait ça il y a plus de 15 ans quand je faisais de la SSI au CELA, on appelait ça les démos femmes de ménage. C'est très curieux, c'est que ça marche toujours et peut-être encore mieux aujourd'hui. L'idée c'était qu'une femme de ménage vienne avec une disquette dans votre bureau, machine allumée, mette la disquette, installe un petit keylogger et deux semaines après reparte avec tout ce que vous avez tapé sur la machine, enfin tous les mots de passe. Ici j'en ai un qui tourne en permanence, hein, pour les spécialistes, hein, je pourrais vous montrer la tâche. Donc vous voyez tout ce que j'ai fait là est là, hein, dans cet endroit-là. Alors vous pouvez vous étonner de voir la machine, elle est en 2002, alors là c'est une autre, c'est fait exprès. Quand nous avons tiré la petite IGC qui est là, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a tiré des certificats qui s'éteignaient trop vite. Hein. Aujourd'hui on a une deuxième ou une troisième valise, on a remis des certificats de vrai. Là aussi, il est très intéressant de montrer aux gens ce que c'est un certificat. Je ne vais pas hésiter à les montrer les certificats, leur montrer où ça se trouve, parce que personne ne sait où c'est. Hein, donc, par exemple, ça, personne n'a idée d'aller voir des certificats. Donc, je vous montre, par exemple, le certificat qui s'appelle ici le centre de formation, celui-là, était valide jusqu'au 30-10-2002. Donc, on imaginait que la valise allait être mise à jour, etc. Pour le moment, je l'ai laissé, donc je suis obligé de reculer la date pour que les choses fonctionnent. Donc ça, c'est qu'on peut faire passer. Hein, ça vaut le coup de montrer aussi une clé dans un certificat, hein, que les gens l'aient vu, etc. On a parlé de l'AES, je crois que ça vaut le coup aussi de montrer ce que... Je vais très rapidement, je vous montre ça. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut montrer des choses. Hein, il faut essayer de les montrer dans une configuration à peu près réaliste. J'utilise un des 328 produits de chiffrement logiciel qu'on trouve gratuitement sur le net. Alors, il s'appelle FindGrid, qui a l'avantage de pouvoir, il fait du chiffrement par password, donc c'est la machine qui tire la clé. Et là, on peut bien sûr suspecter toutes les trappes imaginables, on en a parlé hier, c'est très intéressant. Mais on peut aussi, dans ce produit-là, rentrer la clé à la main. Alors, je ne vous le fais pas devant vous, mais on peut la rentrer
Je vous donne un petit truc pour tirer une petite 256 bits. Hein. Vous prenez 256 pièces de monnaie, vous les lancez en l'air. Voilà. Alors je pense que c'est un petit truc. Mais dans le cadre de l'AES, depuis hier, il ne faut pas réutiliser la même clé deux fois. Hein. Donc si vous voulez faire passer un message, vous envoyez la clé par une petite enveloppe. Je crois qu'il n'y a pas de service en France ou dans le monde qui ouvre toutes les enveloppes. Il y a eu ça pendant l'occupation. On ne sait jamais. Donc voilà un peu ce qu'on peut montrer en termes d'outils. J'aimerais pour conclure vous citer une petite phrase que j'ai trouvée, c'était dans un article l'année dernière, mais je crois qu'elle est très importante. Donc c'est Ira Winkler, chef de la sécurité de Hewlett Packard, qui dit la chose suivante. Ne pas empiler des protections inutiles, cibler les éléments qui doivent être vraiment protégés. Et surtout, ne pas délaisser la formation, car toutes les technologies de pointe ne valent rien si on ne sait pas s'en servir. Donc ça, c'est ce que je crois profondément. Si on lit bien l'article, il y a quelque chose qui me gêne un peu plus. On apprend que Ira Winkler, chef de la sécurité de Hewlett Packard, est ancien agent de la NSA. On voit ça dans le même article. Alors là, c'est une petite piste que je vous livre peut-être pour une prochaine conférence, c'est d'aller regarder un peu ce qu'il y a dans les imprimantes HP, dans les télécopieurs numériques, dans toutes ces bêtes-là. Il y a aujourd'hui des serveurs web dans ces choses-là. Hein, donc vous imaginez ce qu'on peut faire, vous couplez ça avec des fonctions d'OCR présentes, et vous les faites réagir quand vous voyez confidentiel passer. Hein, vous imaginez plein de choses. Donc je pense que c'est aussi un objet qu'il faut aller regarder de très près. Voilà. Donc je vous invite, si ça intéresse certains, qui puissent aller regarder ce qu'il y a dans les imprimantes ou dans les copieurs numériques. Voilà. Alors, avant de répondre à vos questions, il y avait trois questions que j'avais notées, qui étaient des questions qui étaient destinées à la GCSSI. Donc je vais essayer de répondre. Alors je vais commencer peut-être par la question la plus difficile, qui est les sources Windows. Bon, je vais vous dire un peu où on en est. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais ça c'est par exemple un article de l'agence Reuters qui disait « Microsoft offers source code to China ». Donc il y a une publicité. Donc Bill Gates est allé en Chine pour leur offrir le code source. On dit dans l'article qu'il leur offre 100% du code source. Il est dit aussi là-dedans que le même deal a été fait avec la Russie, la Grande-Bretagne et l'OTAN, hein, qui ont signé un accord avec Microsoft pour la divulgation des codes sources, à la fois de... c'est assez large, hein, je crois que j'ai acheté le serveur 2003, etc., .NET, toutes ces choses-là. Bon, donc ça, c'est un... bien sûr, nous avons... Bon, à la DCSSI, nous avons un besoin de neutralité vis-à-vis de ces choses-là. 95% des machines de l'administration française sont des machines qui tournent sous Microsoft. Hein, donc bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe, qui nous intéresse. Nous avons des recherches sur... vous avez vu M. Cabirol qui vous a présenté comment sécuriser un poste de travail. Nous avons nous aussi des gens qui travaillent là-dessus, qui explorent d'autres solutions à base de machines virtuelles, de démarrage sûr, de démarrage intègre, de chiffrement entier, etc. Il n'y a rien de simple, puisque cet objet-là, on ne le maîtrise que jusqu'au processeur. Hein. Et puis vous avez vu qu'il va nous arriver des choses comme... je vais l'appeler l'Altuflix maintenant, ça c'est des souvenirs de l'enfance alsacienne. Il y a l'Altuflix qui arrive. Donc, voilà. Donc que faut-il faire face à cette offre de Microsoft, qui bien sûr a fait cette même offre, où Microsoft fait cette offre à qui le souhaite. Je veux dire, toute grande entreprise, toute grande organisation peut demander le code source. Il y a derrière des clauses juridiques qu'il faut regarder de très près. Hein, donc, le juriste à côté de moi, bien sûr, c'est des choses qu'on regarde. Donc, alors, il y a un aspect politique à la chose. Est-ce que la France doit offrir à Microsoft ce type d'article dans le genre Microsoft offre son code source à la France? Ça, c'est une décision politique qui n'appartient même pas au directeur au directeur central de la SSI. Hein, nous pouvons dire ce que nous en pensons, mais c'est une décision politique. Donc pour le moment, je ne sais pas si cette décision politique sera prise. Pour le moment, elle ne l'est pas. Donc vous n'avez pas vu dans les journaux quelque chose qui dit Microsoft offre son code source à la France. Par contre, je peux vous donner un point de vue technique, qui est un peu sur notre raison d'être. Nous discutons bien sûr techniquement avec Microsoft pour savoir en particulier ce qu'ils vont mettre dans la Bifrix. Ça, c'est très important. Hein, c'est quelque chose qu'il faut regarder d'une manière froide, technique, comme les exposés qu'on a vus aujourd'hui. C'est très important de discuter avec Microsoft, d'avoir des informations de Microsoft. Nous avons des relations excellentes, hein, moi je dialogue souvent. Même en tant que formateur, quand je pose une question à Microsoft, j'ai toujours une réponse. Parfois j'ai la réponse qu'on ne sait pas nous répondre, parce que, etc. Mais j'ai toujours une réponse. Donc ça, il ne faut jamais rester sur sa fin. Vous avez parfaitement le droit de poser toutes les questions que vous voulez à l'écosseur. Après, si on regarde le code source, il y a quand même des limites. Hein, on souhaiterait, quand on a le code source, avoir aussi le compilateur. Je ne suis pas sûr que le compilateur soit dans le package. Ou alors, il faudrait peut-être aller aux États-Unis pour compiler. On m'avait expliqué, il y avait le responsable de la compilation que j'avais rencontré, qu'il faut 25 heures pour compiler l'ensemble des codes sources, pour créer un CD bootable. Un CD qu'on distribue, par exemple, le XP Service Packer, il faut 25 heures de compilation. Donc, il peut se passer plein de choses. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Après, je ne pense pas que la philosophie de Microsoft, que ce soit comme la philosophie Linux, construit son micro-noyau. Je ne pense pas que ça soit là. Bon. Je ne sais pas, ça peut changer. Donc, pour le moment, il n'y a pas de grande raison technique pour nous, il n'y a pas vraiment de raison technique de dire qu'avec le code source, on sera dans une situation de confiance meilleure. Hein, ça, c'est la réponse technique. Je ne pense pas qu'on passera dans une situation de confiance meilleure. Mais je vous dis, la décision que la France acquiert le code source officiellement, c'est une décision politique. D'un point de vue technique, on est beaucoup à penser que ça ne changerait pas beaucoup la donne. Par contre, il est de notre devoir, de votre devoir, de comprendre ce qui va nous arriver, puisqu'on nous annonce en 2008 la bifrite partout. Donc il faut s'y préparer. Alors, il y avait une deuxième question qui était sur le réseau de confiance. Qu'est-ce qu'on fait pour le réseau de confiance? Le général David avait mis en place déjà beaucoup de choses. Moi, je vais vous donner trois petits exemples de réseau de confiance. Il y a aujourd'hui un certificat racine de l'administration française, c'est un projet qui s'appelle IGCA, c'est un élément pratique que le ministère peut utiliser, c'est un élément de confiance. Il y a aujourd'hui un extranet qu'on commence à mettre en place pour les échelons, pour les ministères, et donc c'est à eux de décider de ce qu'ils vont faire de cette information qu'on leur donne, c'est des guides et tout ce que vous voulez, c'est des informations qui ne sont pas sur le site ouvert, il y a le site ouvert aussi sur lequel vous pouvez aller. Il y a aussi aujourd'hui un travail qu'on mène avec l'Agence de développement de l'administration électronique qui vient d'être créée et qui a un objectif très noble, qui est par exemple de mettre dans votre poche un certificat numérique en 2005 ou en 2006. C'est une tâche gigantesque. Donc il faut absolument les aider d'un point de vue sécurité pour qu'on arrive à cette chose-là. Hein, c'est de mettre dans votre poche un élément d'authentification qui vous permettra, vous en tant que citoyen, d'aller signer. Signer des actes administratifs, signer plein de choses. Ça c'est très important. Et puis la troisième question, c'était sur l'Agence européenne. Alors, il y a effectivement dans les textes une agence européenne, je crois qu'on n'a pas encore choisi le pays ni l'emplacement, donc ça va être encore un certain temps pour s'installer. C'est très important, bien sûr, que la France ait des représentants dans cette agence et qu'on puisse utiliser cette agence pour, par exemple, essayer de promouvoir nos produits de sécurité, nos produits agréés, nos produits évalués français, nos produits certifiés. Donc ça, c'est très important, pour plein de raisons, hein, de raisons qu'on a citées hier, on peut aussi je pense qu'on a effectivement pris du retard dans les travaux sur des vraies architectures de sécurité, sur toutes ces choses-là. On s'est laissé un peu porter par le marché. Et si j'avais moi un souhait à formuler à la suite du général Devine, c'est qu'on se remette, nous, Européens, à construire des processeurs des processeurs. C'est un peu. Parce que sinon, la bifrite sera partout et on sera obligé de faire avec. Et le problème, c'est qui va gérer les trappes de la bifrite, ce sera peut-être pas nous. Donc, bon, est-ce qu'il faut... Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit... Mais ça, c'est aussi une décision politique. Il faut un certain nombre de gigafonds pour refaire notre processeur européen. Et il faut, bien sûr, viser d'abord le marché. J'allais dire, pas le marché... si on vise d'abord le marché militaire, ça ne marchera pas. Il faut viser le marché grand public. Hein. Il faut faire des choses qui se vendent. On sait faire des choses qui ne se vendent pas. Il faut changer d'esprit, faire des choses qui se vendent. Donc, moi, je rêve un petit peu de tout ça. Peut-être que ça va se faire. Alors, je suis prêt à répondre à des questions parce que j'ai un peu...
Merci beaucoup pour cette présentation. Toujours avec grand intérêt. Est-ce qu'il y a des questions pour la salle?
Il faudra peut-être intervenir. Sans avoir la partie que vous avez mentionnée, il y a deux autres auteurs. Donc, il y a Chambé et deux troisièmes.
Oui,
vous allez signaler. Alors, justement, on a fait des expériences sur OpenOffice et StarOffice.
Oui.
Il y a beaucoup d'autres éléments cachés dans les contenus web. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi on n'incite pas l'administration française et les entreprises à remplacer, à utiliser une alternative à l'intérieur de laquelle toutes les trappes, enfin, les fonctionnalités qu'on peut y trouver sont totalement absentes. Et sachant que le produit en plus est gratuit et est pleinement compatible avec les suites Office.
Alors, le ministère de l'Éducation, qui a quand même 1 million de machines dans les écoles partout, a signé un accord, je pense, sur Star Office. Et donc, ils ont le droit de diffuser gratuitement. Moi, je pense qu'on se sort. Je ne sais pas s'il faut sortir de voir toutes ces choses-là, mais je pense que si tous nos gamins utilisent ce type de produit, ils auront peut-être envie de les retrouver dans l'administration, dans les entreprises, etc. ça fera peut-être changer plus sûrement les choses qu'une décision. On ne peut pas prendre une décision politique là-dessus, hein, ça ne se décrète pas. C'est pas moi qui vais dire, voilà, il ne faut pas l'utiliser.
Mais tu proposes une alternative,
mais elle existe. Et il y a des ministères qui sont dedans déjà. Ben, j'ai le même que vous, puisque j'ai, par exemple, le travail que vous avez fait, moi je l'avais fait faire à un stagiaire il y a 2 ans, et il a fait les mêmes constatations sur OLE, sur toutes ces choses-là. On peut, ou le travail que fait le CELA, on peut très facilement cacher toutes les étiquettes dans beaucoup de choses. Mais c'est un travail, j'allais dire, on fait souvent des travaux de démolition, mais je ne vais pas jeter la tête à tout le monde, et puis il y a des limites aussi, hein, je ne sais pas si vous avez essayé de générer, il y a plein de problèmes. Et par exemple, dans. Je n'ai pas. On est toujours. Il est plus facile de détruire que de construire. D'accord, Star Office, je vous dis, ou Open Office, qui est la version plus ouverte, le ministère de l'Éducation le promeut partout. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens, tout simplement, d'acheter 1 million de back office. Je crois que c'est aussi simple que ça, c'est le problème budgétaire. Donc il faut laisser faire, à mon avis, il faut laisser faire les choses. Hein. Moi, je compte beaucoup sur nos jeunes pour peut-être revenir dans un monde un peu plus. Moi, je pense qu'on est quand même dans un sommet d'insécurité en ce moment. Les choses vont peut-être s'améliorer un petit peu, encore, c'est pas sûr, avec le sans-fil et toutes ces choses-là, j'en sais rien. On est quand même dans un sommet actuellement. Effectivement, le gros problème du The Word, c'est que c'est un format qui a été. Oui, tout ça, ça a été arrêté en 99. On n'y a plus touché, on n'ose plus y toucher, hein, parce que ça serait vraiment autre chose. En... Donc, ce qui est là en 99 est toujours là aujourd'hui. Donc, c'est passé à autre chose. Hein, donc, je veux dire, le XML, c'est quelque chose que promeut très fort la DAE, là, anciennement, ça avait un autre nom avant, mais c'est des choses qui sont. Il y a une promotion très forte hein, dans les administrations pour que les sites des administrations présentent les documents sous, etc. Le PDF, je crois que tous les actes administratifs sont sous format PDF. Donc, l'administration fait ce qu'elle peut. Mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y aura peut-être moins de problèmes. Mais il faut savoir aujourd'hui que la grande bataille entre Microsoft et IBM, c'est au niveau de la sécurité. Donc c'est clair que même d'annoncer que Office ne sera plus, etc., c'était un argument de vente, je n'en sais rien. Mais il faudra toujours se méfier des formats trop riches. Le problème, il est là. La messagerie au départ, c'était des 7 bits, hein, c'était du texte. Hein, ça a été totalement dévoyé par les mails, les HTML, les trucs qui clignotent dans tous les sens. Est-ce qu'on a besoin des choses qui clignotent? Je me pose toujours la question. C'est que la moitié des sites clignotent. Est-ce qu'on a besoin de l'activité? Enfin, pas toujours. Hein. Moi, j'aime bien aller sur des sites, j'allais dire, universitaires simples, bien faits, où les documents sont accessibles facilement sur la troisième page et pas après 25 clics de PHP, de tout ce que vous voulez. C'est un avis personnel. Hein, moi, je considère qu'on peut faire des choses simples et qu'on n'a pas besoin de choses qui clignotent. C'est un avis personnel. Donc tout ce qui clignote est dangereux. Alors je l'ai fait en accompagnement du ministère des Finances dans le cadre de journées qu'ils organisent dans les régions au profit des chambres de commerce. Donc c'est là où on a des PDG de boîtes moyennes, petites, qui viennent. Et je le fais toujours, ça ne peut pas se faire comme ça en 45 minutes en leur montrant ça, parce que c'est une vision très négative, on va se dire mais quelles sont les solutions, il faut le faire dans un cadre précis. Donc là je l'ai fait dans le cadre, par exemple je l'ai fait à dans le cadre d'une sensibilisation du tissu local à travers un message du ministère des Finances qui dit nous travaillons sur ces sujets-là, nous allons vous offrir des services, nous mettons en place dans les chambres de commerce des serveurs qui vont vous donner ça. Il faut amener ces éléments pédagogiques. Bon, je ne vous en ai pas montré un que vous connaissez peut-être. On a mis sur notre site un élément, une auto-formation à la signature. Ça, c'est quelque chose où j'essaie de faire beaucoup de publicité autour, vous y accédez. Pour ceux qui ne sont pas allés, je vous amuse à y aller. Bon, ça utilise une techno un peu dangereuse, qui est une flash, hein, mais à part ça, ça tient sur une disquette. Et c'est un élément, à mon avis, qui devrait arriver partout. Donc chaque fois que je vais dans ces endroits-là, je dis, si vous n'avez rien compris à la signature, comme 99% des gens, en particulier, je ne sais pas si vous avez lu l'article du journaliste du Monde qui disait que la signature numérique avait plein de problèmes il y a 2 semaines et qu'elle avait du mal à se mettre en place. Il signait dans son article, c'est un article du Monde, monde ici né avec sa clé publique. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail à faire. Et c'était le spécialiste du monde des problèmes techno. Hein. Je vous garantis qu'entre spécialiste ici et l'arrêté, il y a beaucoup à faire. Donc moi, ce journaliste, je pourrais simplement lui dire d'aller se former à la signature et comprendre qu'on signe avec tout le monde. Un élément qui vous authentifie pas, il n'est pas votre clé publique, vous avez ça tout le monde. C'est une signature. Parce que le modèle asymétrique, on l'a mal compris. Hein. On chiffre avec la clé. Vous voyez, c'est des choses aussi simples. Il y avait un schéma dans le Figaro il y a un an sur le chiffrement asymétrique qui était faux. Simplement faux, hein, c'était dans les pages schémas. Je n'écris plus parce que ça me fatigue, mais il faudrait réagir. Il faut leur dire attention, hein. Il ne faut pas colporter des mauvaises informations. Bon, voilà, donc je le fais dans ce cadre-là. On n'a pas de mission particulière à la DCSSI vis-à-vis de l'industrie française. Hein. Notre problème, c'est de sécuriser l'appareil d'État, de faire de la forme. Moi, je l'accueille dans mes formations des fonctionnaires.
Une dernière question. Bon, allez-y, les deux, puis après, c'est terminé.
Cette année, on ne pouvait faire un point en ligne qu'avec un PC et une machine Sun de Microsoft, qui n'est pas bien sûr celle... Moi, j'avais installé sur mon PC la machine Sun de Java, j'avais une bêtise. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que la machine Sun de Microsoft, qui permettait de faire un point en ligne, n'était plus soutenue par Microsoft parce qu'ils venaient de perdre leur procès contre Sun. Donc, on était dans une situation très bizarre où il fallait faire un point en ligne avec un environnement qui n'était plus soutenu par personne. Donc ça, c'est ils se sont pris les pieds dans le tapis, c'est-à-dire ce qu'on pouvait faire sur Macintosh, j'avais un OS 9.2, ils m'ont dit qu'il fallait un OS 10. Je dis, moi, je ne vais pas mettre un OS 10 sur la machine, je suis très content de... Voilà, c'est une machine comme ça, elle ne va pas supporter le 10, c'est pas la peine, hein, elle est un peu lente. Donc ce que j'ai fait, je suis à peu près le seul à l'avoir fait, j'ai pris mon certificat, je savais où il était sur mon Macintosh, je l'ai importé sur mon PC parce que je savais faire. J'ai supprimé la machine Sun de chez Java, j'ai mis la machine Sun de Microsoft qu'on avait... quelque part en local chez nous parce qu'elle n'existait plus sur le site de Microsoft et ça a marché. Alors si vous allez sur leur site, vous verrez que la liste de révocation a grandi pendant 3 jours, elle est passée de 4 certificats révoqués à 20 000 certificats révoqués. Voilà. Donc effectivement, à mon avis, la bêtise qu'ils ont faite, c'est de tirer des... Alors c'est vrai que pour tirer les certificats, ils avaient deux choix. Pour les certificats des entreprises, ils disent aux entreprises, vous allez acheter ça. Dire ça pour lancer un pont en ligne, dire au contribuable, vous allez acheter un certificat, ce n'était pas très réaliste. Donc évidemment, ils ont choisi la technologie Java, tirer un bitclé sur la machine, et il fallait effectivement être root, etc. Je crois qu'ils n'avaient pas d'autre choix technologique que celui qu'ils ont pris. Ce qu'ils auraient dû faire par contre, c'est tirer des certificats pour un an et refaire la procédure complète l'année d'après. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'un pont en ligne, Copernic, est un projet qui a été sous-traité. Ce n'est pas l'administration elle-même qui l'a réalisé, c'est des sous-traitants. Ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent et c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Mais ça montre bien que toutes ces techniques de sécurité, quand on est sur le terrain réel de l'administration à distance, ça devient très très complexe et c'est pas évident à gérer. Et moi j'aurais peut-être pas fait le choix de Java, mais qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre comme choix, donc ça. Voilà, ça c'est le. Mais vous avez tout à fait raison, il faut que les gens utilisent des solutions standards.
La toute dernière question.
Ah bon, je vous explique ça. Non, la biométrie, je vous explique très simplement, je n'y crois pas qu'au moyen d'authentification, parce qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que la donnée biométrique ne peut pas être changée, alors qu'on change un password. Donc, et la donnée biométrique sera bientôt publique, puisque chaque fois que vous irez aux États-Unis, vous serez filmé, on vous mettra les doigts partout, on fera le fond de l'œil. C'est prévu, hein, vous ne pourrez plus rentrer aux États-Unis sans donner tout mon marquant biométrique. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'il y a plein de gens qui s'amusent à falsifier les données biométriques, faire des doigts en plastique, des choses comme ça, avec des films, des choses. Voilà pourquoi je n'y crois pas. Donc il faut faire attention. Je ne dis pas que ce n'est pas un moyen d'identification qui peut servir dans un certain nombre de choses. Je dis attention, là on est dans l'effet de mode. Les effets de mode, il y en a de manière régulière. Hein. Il y en a eu sur les firewalls, ça se calme un petit peu. Bon, il faut faire attention. Moi je distingue toujours l'effet de mode de la vraie sécurité, qui est quand même quelque chose qui est plus complexe, plus construite, avec des politiques, avec une volonté, avec tout ce que vous voulez. Les bons débats, c'est par exemple le débat que pose M. Caterol, qui est-ce qu'il faut toujours que le chiffre gouvernemental soit dans une enceinte matérielle? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des enceintes logicielles qui soient aussi, etc. Ça, c'est les vraies questions. Ça, c'est des vraies questions auxquelles il faut s'intéresser. Mais aller dans les effets de mode, voilà pourquoi. C'est un avis personnel. Hein, parfois, dans mes formations, je l'explique. Il y a un mode de la souris à reconnaissance digitale, ça plaît beaucoup au patron. Je ne pense pas que ça améliore la sécurité de son poste de travail.
Et sur la première question, est-ce que c'est envisageable que les alors, fassent une formation pour les citoyens sur son site?
Alors j'en ai une là, sur la signature.
Oui, et pas seulement la signature, justement.
Montrer des virus, c'est quand même, je ne sais pas si on a le droit, là je pose la question au juriste. Est-ce que c'est dans l'émission? Oui. Moi, ma mission, elle est claire, c'est d'abord de former des fonctionnaires à la SSI. J'ai une deuxième mission, on a une deuxième mission qui est de donner confiance aux citoyens dans l'usage des techniques, etc., pour aller faire de la téléadministration. Et là, c'est clair que notre site n'est pas à la hauteur de cet enjeu-là. Mais moi, je fais ce que je peux, mais je ne pense pas qu'il soit très facile. Cette valise, je vous l'ai montrée, ou je la montre souvent, c'est simplement pour dire aux gens, essayez, faites pareil, quoi. Bon, venez me voir. Moi, je n'ai pas de mission de diffuser cette chose-là, c'est très difficile, hein, parce que. On l'a fait, hein. Je l'ai fait pour un certain nombre de ministères, je leur ai dit, vous m'amenez deux portables et on vous installe tout ce qu'il faut. Puis on se rend compte qu'il n'y a jamais les bons drivers, les machins, on perd beaucoup de temps. Et le centre de formation, c'est trois personnes. Hein. Donc, par contre, on a toute la puissance des ingénieurs de la DCCC qui donnent les cours. Donc voilà, je ne crois pas que ça puisse être mis sur Internet de cette façon-là. Par contre, moi j'aimerais beaucoup, si j'avais du temps et des moyens, on fait souvent avec en faire d'autres des modules d'auto-formation, il faudra en faire sur le password. Des choses très simples, comment choisir un bon password. Je ne sais pas si vous savez faire, moi c'est compliqué. On pourra en faire sur le shift, hein, pour dédramatiser un peu. On pourra en faire sur plein de sujets. Ce qui nous a été montré sur le firewall personnel, ça mériterait d'être aussi porté à la connaissance du citoyen. Lui donner des éléments de choix. Hein. C'est pas lui dire il faut prendre tel produit ou tel produit. Moi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est d'amener de la science et de dire en fonction. Moi, j'ai aussi un principe on va les manger, je suis désolé. J'ai un principe très simple qui est celui-là. Je vous montrerai très rapidement. Moi j'aime beaucoup ça. Je vous montre mon credo et puis j'arrive là-dessus. Je vais trop parler. Credo, alors voilà, le credo il est là. Moi j'aime pas beaucoup la sécurité par l'obscurité. C'est le principe de Kerckhoff. Moi j'aime pas beaucoup mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas bon. C'est une leçon de défense en profondeur, une leçon profonde. j'aime pas beaucoup, pas de sécurité sans les hommes et les organisations, ça c'est très important. On va finir là-dessus, je vais encore faire un emprunt. En termes de formation, j'estime avoir le droit de faire des emprunts. C'est une planche que montre souvent Microsoft et qui est sur ma machine parce qu'on a participé à un séminaire ensemble, à une conférence. Donc ils mettent la chose suivante, que j'aime beaucoup, c'est copyright Microsoft. Voilà, donc ça c'est aussi très important. Donc ça j'y crois beaucoup et en tant que Microsoft aussi y croit, c'est la sécurité, c'est de la techno, des processus et surtout des hommes.